Radio Campus Paris.
Vivement mercredi. En attendant, nous sommes le lundi 14 novembre. Moi, cette musique m'a mis en joie. Il est 18h01. Vous écoutez Radio Campus Paris en FM et sur le web. Et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir et c'est reparti pour 30 minutes avec un jeune talent d'aujourd'hui et plus encore de demain. On prend les paris à la relève aujourd'hui alors que l'automne arrive enfin à Paris. On va parler de vacances, de soleil et de bulles. Mon invité est bédéaste. Ben bonjour Cécile Dupuis. Vous êtes autrice avec Valérian Guillaume de L'Ombre des Pins, votre premier roman graphique qui est apparu en septembre aux éditions Virage Graphique. Jusqu'ici j'ai tout bon ? Alors ça va. Est-ce que vous aimez parler ou est-ce que vous appréhendiez cette interview ?
C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire de la radio, c'est mon premier direct, donc c'est avec plaisir pour la découverte.
Mais est-ce que vous aimez parler de façon générale ?
J'apprends à aimer.
Je vous pose cette question parce que votre roman graphique est très silencieux.
C'est vrai, c'est un parti pris qu'on a pris avec donc, mon co-scénariste Valérian Guillaume, où on a pris le parti de faire parler les silences, plus que les mots. Parce que parfois, les mots gâchent plus que
le silence. Que là, je suis en train de paniquer quand vous dites ça.
Non, on va quand même parler pendant cette émission, sinon ça va être un petit peu long pour nos auditeurs.
Parce que si on laisse parler les silences, ça peut être terrible. En radio, c'est peut-être le seul endroit où on ne peut pas trop le faire.
Pourquoi pas ?
Vous, dans la vie, vous aimez apprécier les silences. Moi, j'ai une amie comme ça qui dit toujours que quand on est bien avec quelqu'un, on doit être capable de supporter le silence.
C'est vrai. Moi, j'aime beaucoup... Justement, on peut mesurer la préciosité des relations grâce à ce silence.
D'accord, on va en laisser quelques-uns comme ça. Alors, si j'ai bien lu et surtout bien compris votre premier roman graphique, il est issu d'un travail que vous avez mené dans le cadre de vos études à l'école d'Estienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter la généalogie de ce premier livre ?
Alors, pour commencer, effectivement, j'ai abordé L'Ombre des Pins par le biais de mon école, l'école Estienne, une formation qui s'appelle, attention, le DNMAD, Image Génération, Diplôme National des Métiers d'Art et du Design, très pompeux, pour dire qu'on dessine, et c'est super. Et moi, j'ai abordé cette BD par l'été. En fait, mon premier souhait, avant même de planter ces personnages, dépeindre leurs relations, c'était de faire le portrait de l'été. Comment l'été scénarise des récits à part justement cette temporalité, ses lumières, son rythme très très particulier.
Parce que vous aimez l'été, c'est votre saison préférée comme aurait dit l'autre.
C'est une saison, c'est vrai, qui pour qui, pourquoi, est très importante pour moi. Je crois que je suis une espèce de lézard qui aime beaucoup le soleil et c'est vrai que là, justement, avec cet automne qui arrive, le moral est...
C'est quoi ? C'est la lumière ? C'est la durée du jour ? C'est la chaleur ? C'est la chaleur... Il y a quelque chose de sensuel dans l'été, évidemment, par rapport à cette saison. On est tous dans des pulls, des écharpes, des...
Je trouve que ça transforme assez la réalité. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de fantasme qui s'installe. Et effectivement, il y a une érotisation des corps, une beauté des paysages, des compositions. Je ne sais pas... Ça m'émeut sans trop...
Et donc vous, au départ, vous partez pour travailler sur donc l'été en général. Enfin, comment graphiquement rendre l'été ?
Oui, ça a été mon premier challenge, c'est comment rendre graphiquement la temporalité de l'été, toutes ces lumières et cette saison en particulier.
Ça, c'est dans le cadre d'un travail universitaire, enfin d'un travail d'école ?
Alors, c'était donc...
Académique, voilà le mot que je cherchais.
J'ai fait un mémoire, j'ai écrit un mémoire par rapport à ce sujet, effectivement, donc comment l'été scénarise le récit.
C'était ça que je voulais vous demander, donc par exemple là vous allez faire des recherches sur comment d'autres ont fait, comment ça se fait dans d'autres arts.
Alors j'ai pas trouvé beaucoup d'écrits sur ce sujet, c'était d'ailleurs très perturbant et bon je me suis débrouillée quand même parce que je savais ce que j'avais à raconter, mais moi je me suis beaucoup plus appuyée sur des références en fait, notamment cinématographiques, littéraires et aussi de la BD.
Et on peut vous demander lesquels par exemple en film. Alors, s'il y avait un film sur l'été pour vous, c'est lequel ?
C'est Pauline à la plage de Éric Comer ou Un été avec Monica de Ingmar Bergman. Et c'est ces ambiances-là qui m'ont perfusé la chaleur de l'été.
Comment vous les décririez, ces ambiances? Parce que c'est deux cinéastes finalement assez différents, Bergman et Romer.
Oui, en même temps, il y a ce fil conducteur de l'amour estival.
Franchement, Bergman et l'été, on n'y pense pas du tout, c'est pas spontané, c'est surprenant.
Et pourtant, moi j'aime beaucoup comment les corps évoluent dans ces compositions, notamment parce que c'est aussi en noir et blanc, et que c'est aussi un challenge de, en noir et blanc, rendre la chaleur de l'été.
Et puisqu'on parle de cinéma et de Romer, Pauline à la plage, plutôt que Conte d'été avec... là, c'est Melville Poupeau, peut-être vous ne l'avez pas vu. Hein.
Si,
moi, je n'ai pas vu Pauline à la plage, vous voyez, on est partout.
Ben, en fait, ils sont assez similaires en soi. Enfin, similaires. Voilà, je ne veux pas frustrer ou fâcher certains, mais...
Il y a des correspondances, en tout cas,
il y a des grosses correspondances. Globalement, c'est des histoires d'amour l'été.
On a bien compris, pour vous, l'été, c'est aussi l'amour. Donc, il y a un lien
entre... C'est lié. Oui.
Entre le soleil, les sentiments, les corps.
C'était aussi dans mon mémoire, c'était comment, en tant qu'être humain, à la fois physiquement et à la fois sentimentalement, notre comportement change l'été. Ce n'est pas le même.
Justement, ça n'a rien à voir. Et j'allais vous poser une question sur quand vous étiez enfant. Vous avez toujours dessiné. Comment on devient, on se dit qu'on va faire du dessin son métier? C'est quelqu'un qui ne sait pas dessiner qui vous pose la question.
Alors, mon cas, il est... je ne sais pas s'il est particulier. J'ai dessiné.
Tous les cas sont particuliers.
J'ai dessiné comme tous les enfants dessinent, c'est-à-dire pas particulièrement mieux ou plus que n'importe quel enfant. Et le dessin, d'une manière importante, est arrivé dans ma vie assez tard. En première, en fait, je suis rentrée en option art plastique et je me suis dit oh là là, tout le monde va savoir dessiner sauf moi. Donc, je me suis ruée sur des tutos horribles sur YouTube. Et petit à petit, de fil en aiguille, grâce à des cours de philosophique très ennuyants, j'ai pu faire ma patte. Et puis, ça ne m'a plus jamais lâchée. Et voilà.
Quand je reviens à votre projet d'école, là, de l'été, j'adore portrait de l'été. Vous saviez qu'il allait vivre au-delà de l'école dès le début ou ça a été l'heureuse surprise au fur et à mesure?
J'ai pas compris votre question, pardon.
Eh ben oui, moi non plus, j'ai pas bien compris ce que je disais. Est-ce que vous saviez dès le début que vous alliez en faire un roman graphique et que ça allait être un portrait, un projet dans la durée, ou est-ce que ça s'est imposé peu à peu?
Alors, le soleil dans mes dessins était déjà très présent. Et cette ambiance solaire, et c'est souvent les gens ce que me disent pour décrire un peu mes dessins, c'est solaire. Et ensuite, je savais que l'été, je voudrais le raconter en BD. Ça, c'était certain.
Vous dites que les gens disent que vos dessins sont solaires, mais vous avez un truc très fort. Il y a un dessin magnifique dans votre album, enfin dans votre roman. Il y a un moment, il y a un ciel jaune, ce qu'on ne voit jamais, et il passe tout seul. Je ne sais pas comment vous faites ça, parce que quand on... Je me suis dit, après, il y avait un truc bizarre sur cette page, mais sur le coup, on ne le voit pas.
En fait, sur toutes les planches de l'album, de L'ombre des pins, il y a en fait ce filtre beige, jaune, or, qui vient en fait donner une unicité à la planche et de bercer en fait toutes les scènes de cette lumière si particulière à l'été.
Ah, c'est pour ça, on est tout le temps dedans, donc
c'est ça.
On ne s'en rend pas compte le jour
c'est
où
ça.
Il explose.
Vous êtes berné.
Bravo, c'est bien fait.
Merci.
Qui sont Pablo et Carla?
Alors, Pablo et Carla, c'est Pablo qui est né en premier. Et c'est drôle parce que souvent en dédicace, on me pose la question si Carla, c'est moi. Et pas du tout. Enfin, à l'origine, pas du tout. Moi, l'origine de Pablo, c'est plutôt une espèce d'alter ego masculin où c'était un peu le premier personnage que j'ai construit. Donc, j'ai eu du mal à l'éloigner de moi-même. C'est-à-dire que c'est compliqué de... Voilà, moi, je suis, on va dire... gentil, et c'est compliqué de se dire bon, je vais faire un personnage méchant parce que je sais pas comment ça fonctionne. Et donc c'était tout un cheminement, et puis ensuite avec Valérian, on a un peu plus étoffé ces personnages pour leur donner un peu plus de consistance par rapport. Donc il y a eu une première version, on n'a pas précisé, mais pour mon diplôme il y a eu une première version avec un scénario que j'avais écrit et dessiné qui est complètement différent, enfin complètement, qui est différent de la version qui est éditée. Quand je dis complètement différent, c'est pas tout à fait le cas, puisqu'il y avait déjà donc l'été qui était au centre du récit. Pablo et Carla existaient déjà, la grand-mère également, la maison. Et juste, l'histoire et le récit n'étaient pas du tout la même, et c'était en noir et blanc.
Ah oui, vous aviez décidé de le faire, on pouvait donc faire l'été en noir et blanc.
C'était mon challenge. Et,
vous aimez donc la difficulté?
Oui, j'aime bien relever des défis, sinon c'est pas drôle.
Pardon, je reviens quand même à ma question. Qui sont-ils ? Alors, je ne vais pas vous poser la question comme ça. On va écouter un extrait d'une émission d'un documentaire de Pascal Brugnot que j'ai trouvé sur le site de l'INA, qui évoque l'amour chez les jeunes de 15 ans des années 80. Ça s'appelait à l'époque « Ne me parlez pas de quelque chose, mais je me suis trompé. Donc, je ne pourrais pas vous donner le titre précis de l'extrait, mais vous le retrouverez sur le site internet de Radio Campus Paris à la rubrique La Relève. Je vous propose d'écouter ces jeunes et vous me direz si Carla et Pablo leur ressemblent. On les écoute.
Ça existe, le coup de foudre?
Oui, ça existe.
Ça t'est arrivé, toi?
Ouais, ça m'est arrivé.
T'es tombé amoureux?
Ouais, mais ça...
Souvent, quand je suis avec un garçon, quand j'ai envie de, entre guillemets, d'être amoureuse de lui, je joue un peu la comédie à moi-même.
À notre âge, je crois pas qu'on peut être amoureux. Quoi.
Ouais, si. Enfin, on croit qu'on y est,
mais... Enfin, on croit, mais on y est pas.
C'est à la fin qu'on s'en rend compte qu'on n'y était pas, quoi. Ouais.
Le mot « amour », vous n'aimez pas tellement l'employer. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que on donne dans les livres, dans les films, n'importe où, on donne une définition de l'amour qu'on ressent pas. Je veux dire, c'est à la limite quelque chose de figé hein, dans la tête des gens. Enfin, je sais pas.
Ça peut être très violent, mais c'est rare. Enfin, je veux dire vraiment que ce soit symétrique, parallèle, que deux personnes s'aiment violemment l'une l'autre. Ça, c'est très rare.
Pour moi, il y a vraiment deux choses qu'il faut bien séparer. C'est d'une part les sentiments qu'on peut avoir envers la personne avec qui on a une nouvelle relation, la nouvelle personne avec qui on a une relation. Et bon, par exemple, le côté, ce que ça peut t'apporter sur le plan sexuel, etc. quoi. Parce que, ça, à mon avis, ça progresse pas au même rythme.
C'est-à-dire, on a séparé les deux choses. Avant, amour physique, c'était amour moral, et en fait, il y avait un seul mot pour les deux. Maintenant, il faudrait réussir à recréer un deuxième mot, c'est-à-dire un mot pour l'amour physique et un mot pour l'amour moral.
On construit nous-mêmes quelque chose. On a à construire quelque chose qu'on ne sait pas trop comment construire.
Quand les mœurs évoluent, c'est normal que le rôle de garçon n'est plus de drailler. Maintenant, il se fait drailler maintenant. Mmh. Et c'est ça qui gêne.
En principe, c'est elles qui me plantent avant que je les ai plantées.
Bon, comment ça se fait, ça?
Ça se fait que moi, je m'attache plus facilement qu'elles, ou... Je sais pas, que peut-être que j'ai moins besoin de changement, ou... C'est une question psychologique.
Une petite copine?
Ouais, ça je le garde pour moi. Je dis rien. Ça regarde personne.
Voilà, c'était un extrait, ça s'appelle Ne me parlez pas d'amour. Ça dure 1h30. C'est sur le site de l'INA ou sur certaines plateformes de vidéos et je vous conseille vraiment de le regarder.
La Relève sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Cécile Dupuis alors. Pablo et Carla, vous les avez entendus là ou vous en avez... Ils sont un peu plus grands, je pense. À peine, peut-être.
Vous leur donnez quel âge à Pablo et Carla?
Moi, je dirais qu'ils sont... Mais c'est vrai qu'en fait, ils ont peut-être 15 ans. Moi, je leur donnerais plutôt 18-20.
Ils ont à peu près 17 ans. 17-18.
Alors là, ils avaient 15 ans, ceux-là, dans les années 80. Ils leur ressemblent quand ils parlent d'amour?
Oui, je pense qu'il y a ce rapport un peu abstrait, en fait, à l'amour qui n'est pas du tout encore construit ou construit justement par des biais littéraires, enfin culturels et d'éducation. Et donc, bah, les premiers émois, c'est quand même une chose hyper... c'est une pente glissante, on va dire ça comme ça.
Ils sont très jolis parce que certains sont très pudiques.
Oui, ils sont très touchants. Oui.
Ouais, pardon, allez-y, je vous laisse continuer.
Non, mais voilà, c'était une très, très belle... Très belle illustration justement de ce que pourraient être Pablo et Carla dans la
Franchement, réalité. Alors ça se passe pas du tout l'été, l'image est très grise, très moche même, je veux dire. C'est de la télé de l'époque, mais ça, c'est 7h30 est vraiment charmante à regarder, ça fait du bien. Votre roman graphique parle d'ailleurs de la première fois, on est peut-être même avant l'amour, si vous allez nous le dire, dans ce moment qui est peut-être là selon moi le plus délicieux, celui des débuts, où on a toujours envie d'être avec l'autre, où tout est merveilleux. On n'a peut-être pas, justement, comme vous disiez tout à l'heure, peut-être pas beaucoup de choses à se dire, mais il y a quelque chose qui se crée, une magie.
Oui, en fait, l'histoire de Pablo et Carla, c'est quels sont les moyens que l'on va développer pour passer le plus de temps l'un avec l'autre. Mais sans que ça soit bizarre, mais en même temps, on n'a pas grand-chose à se dire. Donc, c'est un temps suspendu, dans déjà le temps suspendu de l'été. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mots pour ça. C'est impalpable, c'est indicible. Et c'est ça qui est beau parce que c'est ce silence et cette peut-être gêne est assez universel. Au final, on l'a tous un petit peu vécu dans nos premiers émois, nos premiers amours.
Et c'est pour ça qu'ils font de la photographie. C'est pour ça que vous avez utilisé ce moyen d'un concours de photographie. Enfin, Carla a un appareil photo et elle veut prendre en photo... comment il s'appelle ? Marius ? Non,
Pablo, Pablo.
Pablo, pardon. Je savais que c'était un prénom du Sud, mais je me suis trompé de Sud.
Oui.
C'est un moyen aussi d'apprivoiser l'autre, de le voir à distance.
La photographie, c'est déjà l'objet permet de poser un regard à travers cet objet. Donc il y a une étape avant l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un objet entre nous. Et comment il se cache derrière cet objet pour au final être beaucoup plus intéressé par ce qui est derrière l'objectif, c'est-à-dire Pablo ou Carla.
Pablo, lui, à un moment, on a l'impression qu'il fait un peu son cake. Hein. Il fait son malin quand elle le prend en photo. Il s'arrange, il se met...
Mais c'est très, très adolescent et d'une manière générale. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se présente à l'autre, comment on se montre dans des personnalités qui sont encore toutes timides et non forgées. Qu'est-ce qu'on choisit de montrer à l'autre dans sa force et dans ses faiblesses.
En lisant votre roman graphique, dont je rappelle le titre « L'ombre des pins », parce que faut que je lise, parce que j'ai parfois mauvaise mémoire, mais il y avait quelque chose qui me travaillait et qui là m'apparaît, c'est que c'est à la fois très simple et très sophistiqué, votre travail. Comment on arrive à faire ça ?
Je crois que je n'ai pas tellement d'explications à ça. C'est
quelque chose que vous avez voulu ? Vous vouliez que ce soit une histoire simple, par exemple, au premier abord ?
Oui. Alors justement, mon premier scénario n'était pas simple. Et donc, c'est pour ça que quand on a décidé de l'éditer, on l'a retravaillé pour que ça arrive à une forme beaucoup plus simple et à la fois beaucoup plus puissante. Pardon. On m'avait dit une fois cette phrase, c'est « less is more », c'est moins il y en a, plus c'est intense et c'est fort, quoi.
Vous avez beaucoup coupé, vous avez coupé des péripéties, vous avez coupé des...
On a tout refait. Enfin, on a réécrit le scénario et j'ai redessiné la totalité des planches en reprenant parfois certaines compositions du premier ouvrage, mais tout est reparti de zéro.
Vous avez un dessin très classique, on peut le dire.
Ligne est claire, oui, ouais. C'est franco-belge à fond.
C'est ça que vous en réclamez. C'est pas, si je dis la ligne est claire, ça vous vexe pas ?
Pas du tout. Pas du tout, non, non. Classique, limite, est plus, peut-être plus vexant que...
J'ai pas dit académique, hein, j'ai dit classique.
Oui, oui, très bien.
Justement, vous, les auteurs que vous aimez en roman graphique ?
Alors, là, il faut que j'en sorte de mon chapeau. Allez, c'est parti. Manuel Effior, Emmanuel Guibert, mm-hmm. Baudouin, Benjamin Flau. Enfin voilà, j'arrive.
Ça, c'est votre petit panthéon personnel.
Voilà, Alfred aussi.
J'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres. C'est frustrant, peut-être.
Comme Prima, Alfred a été comme un phare, dans ma carrière de BDiste. Parce que c'est une des BD qui m'a vraiment donné envie d'en faire.
Et ça, vous l'avez découvert à quel âge ?
10. Ah oui, tout 19.
Vous étiez vraiment, au moment où vous avez appris le dessin, très assez vite, vous avez eu envie de raconter des histoires en dessin.
C'est venu assez tard.
Vous étiez en première, hein, donc je calcule
oui,
vite.
Oui,
hein.
Oui, c'est... bien joué, bien
18
joué.
Ans, 19 ans, je me suis dit que c'était 2-3 ans après.
Le fait de raconter des histoires, c'est venu à Estienne. En fait, quand je suis arrivée à Estienne, je ne faisais que des illustrations, donc c'est-à-dire juste des images, des belles images. Qui n'avait pas donc de lien ou de vocation à faire une narration séquencée, donc en plusieurs images. Et j'avais cette espèce de syndrome de l'imposteur de « Ok, mais en fait, j'ai rien à raconter, comment on va se débrouiller ?» Et puis en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que la narration séquencée, en fait, ça se fait et très très bien.
Je ne sais pas si ça pourrait faire partie de la bande-son. Je ne vous ai pas demandé avant de votre album, mais on va écouter un peu de musique. Ça s'appelle Lost in Los Angeles et c'est Kids Return. Yeah!
Thank you. stupid conversation. I don't want to mess with the meaning of life. I just want to say that music is not a competition. I don't want to lie about moments of joy. The day we got together, we made a deal forever.
Un extrait de la fraîche liste de novembre de Radio Campus Paris, donc c'était Kids Return, Lost in Los Angeles. Vous le prenez alors en bande-son pour votre roman graphique ?
C'est parfait.
Parce que là, c'est Los Angeles, vous êtes plutôt Côte d'Azur.
Alors, la BD n'est pas située géographiquement.
Ah, moi, j'ai pensé que c'était la Côte d'Azur, c'est peut-être l'Ombre des Pins qui m'a trompé. Je redis quand même avec qui je suis, Cécile Dupuis. Vous êtes l'autrice avec Valérian Guillaume de L'Ombre des Pins, un roman graphique publié chez Virage Graphique. Pardon, alors. Vous disiez que ce n'est pas forcément la Méditerranée ?
Alors, on a décidé de ne pas situer pour que chacun puisse se projeter en fait, dans les lieux de son imaginaire, de son enfance, de son histoire. Et en dédicace, je rencontre plein de personnes qui me disent « Ah, c'est le Sud-Ouest,
ah, j'ai
c'est
reconnu le Sud-Est,
Saint-Raphaël, je crois que souvent ça revient. Il y a aussi plein de très beaux pins en Bretagne.
Oui, c'est ça.
Alors,
ouais.
C'est vrai que les roches un petit peu ocre, comme ça, ça fausse un petit peu les pistes. Mais chacun est libre de se projeter où il veut.
Donc, ça peut-être, je ne sais pas, je ne suis jamais allé à Los Angeles, mais peut-être, je crois que je doute qu'il y ait des pins à Los Angeles. Dans Le Monde, un ou une critique, parce que ce n'était pas signé à écrit que votre album, alors moi je trouve que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à quelqu'un, créer une envie irrépressible de vivre dedans, vivre dans votre album.
Ah ben voilà, c'est le plus beau compliment, effectivement, qu'on puisse...
D'ailleurs, elle ajoutait ce qui est rare dans le roman graphique. Est-ce que vous avez vécu dans cet environnement sans nous dire où c'est ? Est-ce que vous êtes inspiré d'endroits que vous aimiez ? Parce qu'on sent que vous avez un rapport personnel. Alors peut-être qu'on projette en lisant.
Étonnamment, moi je n'ai pas grandi en bord de Méditerranée. Justement, j'ai grandi au bord de Bretagne, de côte bretonne. J'ai un voyage en Corse qui m'a pas mal marqué, mais en fait, ce n'est pas du tout mon berceau initial.
Alors tout à l'heure, on a été un peu vite parce que vous avez travaillé donc à l'école Estienne sur un projet sur l'été. Vous avez fait une première version. Puis finalement, vous avez été publié donc à cette rentrée chez Virage Graphique. Je savais qu'à un moment ou à l'autre, j'allais la faire, celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez envoyé des planches ? Ils sont venus les voir à l'école ?
Alors, quand j'étais encore à Estienne, j'ai envoyé ma BD au concours du prix Raymond Leblanc, qui est un concours de BD belge. Et ce concours, donc, notamment, se passe un petit peu sur Instagram. Les gens votent voilà, pour leur poste. Et Sonia Deschamps, mon éditrice, m'a repérée via ce concours parce que voilà, L'Ombre au départ n'a pas gagné mais a fini dans les 10 derniers finalistes et donc ça a été pas mal médiatisé. Et donc suite à ça, Sonia m'a envoyé un premier mail pour à l'origine rejoindre juste la collection Virage Graphique. Et en fait, en lui envoyant L'Ombre des Pins, donc la première version, elle m'a dit « Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, à tirer de ce récit. Si tu es prête à le retravailler, moi, je te suis. » Donc, je lui ai dit « D'accord. »
Je lui ai dit « Non, je n'ai pas envie. »
Ouais, ouais, non, bof, bof.
Finalement, c'est tellement...
Et donc, je lui ai dit « D'accord. » Mais en fait, moi, ça faisait donc un an que je travaillais dessus. Je n'avais pas du tout de recul, en fait, sur ce que j'avais fait. Et donc, je ne me sentais pas capable, pas les épaules, en tout cas scénaristiquement parlant, de retravailler ça toute seule. Donc, c'est là où, en fait, elle m'a fait rencontrer Valérian Guillaume, qui est metteur en scène et auteur de théâtre, et avec qui, main dans la main, on a vraiment réécrit un scénario.
Il y a un vrai travail d'édition. Félicitations à cette maison. Non, mais c'est vrai, parce qu'ils vous ont fait retravailler.
Ah oui, on est pointilleux.
Vous avez repassé beaucoup de temps ?
Alors, tout est allé très, très vite. Donc, j'ai rencontré pour la première fois Sonia en novembre 2021, Valérian en janvier 2022, donc cette année. Et en 5 mois, storyboard, ancrage et couleur, en 5 mois. Donc, j'ai fini en juillet de cette année. C'est sorti en septembre.
Et donc, vous allez encore à l'école, en fait ?
Ah non, moi, j'ai fini.
Ah non, vous avez fini quand même. Hein.
Fini l'école.
Non, mais vous pourriez, je ne sais pas. Justement, vous continuez à être illustratrice à côté, à faire du dessin.
Alors oui, c'est vrai que être dessinatrice de bande dessinée et illustratrice, c'est pas forcément synonyme pour tout le monde. Moi, ça l'est. Parce que j'ai un vrai amour aussi juste pour le dessin en tant que tel. Donc oui, c'est une activité que j'ai au quotidien. Et donc la BD, moi, j'aspire à continuer.
Virage Graphique, c'est une maison jeune.
Alors, les premiers titres, oui, sont sortis cette année, en mars 2022, donc.
C'est excitant aussi de rejoindre un projet comme ça, de se dire qu'on va donner le ton, l'image d'une maison.
Oui, surtout que donc, Sonia a comme démarche de faire éditer à la fois donc, des jeunes talents, notamment en ce moment, on est beaucoup de jeunes femmes, donc c'est chouette, et accompagnée, entourée de gens qui sont dans le métier depuis beaucoup plus longtemps. Et notamment, bah, moi, mes dieux de la BD, donc Alfred, David Prudhomme, Anne Simon, des auteurs qui, moi, me touchent. Et donc, c'est très gratifiant de pouvoir rejoindre cette collection accompagnée, bien accompagnée.
Vous travaillez déjà sur le prochain album ?
Alors, j'ai un rendez-vous demain avec peut-être ma future co-scénariste. Donc, c'est déjà en route dans ma tête, en tout cas. Mais
Mais vous savez déjà... Vous avez l'univers, comme là, vous aviez l'été, vous avez comme ça...
Oui, je sais de
quelque chose de très fort.
Thématique très générale, je sais dans quelle direction j'ai envie de me diriger.
Et là, la scénariste, c'est vous qui l'avez choisie ou...
C'est une rencontre aussi, faite par Valérian et Sonia. Enfin, c'est une toile d'araignée, en fait, en positif. Hein. C'est tout un réseau qui est en train de se créer.
C'est une première. Vous avez eu un bon accueil critique. Je ne sais pas si les ventes suivent, mais je suis sûr que oui.
Oui, oui. Alors moi, je suis aux anges parce que effectivement, comment on vit ça ? Alors c'est une très bonne question. C'est une alternance entre des moments de joie intense et puis la vie normale. Donc voilà, j'arrive un jour en librairie, on me dit « Oh, tu sais que tu es dans le monde ce matin ?» Et là, tu fais « Waouh !» Et ça fait super plaisir. Et effectivement, la BD.
Et après, le soir, on refait sa vaisselle chez soi seul.
Voilà, en fait,
et on retrouve le quotidien.
On reste des humains et c'est super. Heureusement.
Et bah super. Merci beaucoup, Cécile Dupuis, d'être passée par nos studios. Merci beaucoup d'être venue nous parler donc de L'Ombre des Pins aux éditions Virage Graphique. Et je redis quand même le nom de votre co-auteur, Valérian Guillaume. Voilà, il faut que je me dépêche. C'était La Relève, produit présenté par Christophe. Réalisation était assurée par Alison. Vous pourrez retrouver l'émission et toutes les précédentes sur le site web de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. À 19h, vous retrouvez La Matinale. Et puis en attendant, c'est le programme musical de Radio Campus Paris. On me dit que ce n'est pas le plus mauvais de la place. Au revoir.